RFI, bonjour, 17h en temps universel, bonsoir, 18h à Paris et Belgrade.
Nicolas Brousse.
Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Novi Sad, la pression de la rue ne faiblit pas après l'accident qui a fait 15 morts et qui a ravivé la colère populaire contre la corruption, accident, l'effondrement d'une gare. Le mouvement a déjà contraint le Premier ministre à la démission, notre correspondant nous attend dans le cortège. Au Proche-Orient, nouvel échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, 3 otages contre 180 prisonniers, la plupart détenus sans charge ni jugement, nous serons à Jérusalem. Le conflit dans l'est de la RDC est une menace pour tout la région, dit le président du Burundi. Nous entendrons Évariste Ndayishimiye. Et puis c'est pas du vent au sens figuré, mais c'en est au sens propre. Le plus gros cargo à voile du monde a pris la mer. Il pourra emporter plus de 5000 tonnes de marchandises sur de longues distances, le tout sans polluer. En Serbie, des dizaines de milliers d'étudiants manifestent donc à Novi Sad, la deuxième ville du pays. Ils bloquent les 3 principaux ponts qui enjambent le Danube. Blocage pour marquer les 3 mois de l'effondrement meurtrier du toit d'une gare de la ville qui a déclenché un mouvement national de contestation contre les autorités. Laurent Rouy, vous êtes en direct du cortège. Mobilisation encore forte ce samedi donc.
Alors effectivement, une très forte mobilisation, des dizaines de milliers de personnes. Il faut bien préciser qu'il ne s'agit pas que d'étudiants, mais c'est vraiment toutes les classes sociales de la Serbie, les retraités, les agriculteurs, les avocats, les médecins, les professeurs, les simples citoyens qui sont là dans la rue aujourd'hui pour protester dans une ambiance bon enfant. Nous sommes vraiment face à un mouvement non violent total, si j'ose dire. Il n'y a en effet aucun incident, à part les quelques incidents qui avaient été déclenchés les semaines passées par des provocateurs du parti au pouvoir, le SNS, et qui avaient été immédiatement mentionnés et qui avaient occasionné des arrestations. Donc ambiance bon enfant, les manifestants vont bloquer les 3 ponts pendant toute la nuit et jusqu'à demain après-midi. Donc c'est la deuxième manifestation de 24 heures en Serbie en un peu plus d'une semaine. La mobilisation est effectivement très forte. Le Premier ministre, vous l'avez dit, a déjà démissionné. Pour l'instant, le président refuse de former un gouvernement technique, ce qui est la demande des manifestants. Nous sommes toujours dans une situation de bras de fer, même s'il semblerait que la population soit en passe de l'emporter.
Laurent Rouy, correspondant des RFI, en direct de Novi Sad. Nouvelle journée de libération d'otages israéliens contre des détenus palestiniens. À Gaza, le Hamas a relâché 3 civils, 3 hommes, dont un franco-israélien. L'opération, cette fois, s'est déroulée dans le calme. En échange, Israël a libéré 183 détenus palestiniens, parmi lesquels plus d'une centaine de Gazaouis arrêtés après le 7 octobre et sans lien avec l'attaque du Hamas. À Jérusalem, Sami Boukhalifa.
Amaigris, les joues creusées, le visage marqué, les détenus palestiniens retrouvent la liberté. Faher Shritah, porte-parole de la commission des affaires des détenus palestiniens, dénonce des conditions de détention effroyables dans les prisons israéliennes. Ils sont en mauvaise santé, ils ont été battus, humiliés, ils ont subi des actes de torture, surtout durant les derniers jours. Pour les forces d'occupation israéliennes, la libération de ces détenus est un aveu d'échec, car certains d'entre eux étaient condamnés à de longues peines, voire à la perpétuité. Israël affirme que ces détenus ont du sang sur les mains. Certains ont été condamnés par des tribunaux militaires rattachés aux forces d'occupation israéliennes. C'est un simulacre de justice, dénonce Faher Shritah, dont l'organisation est liée à l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Ceux qui ont vraiment du sang sur les mains, ce sont les soldats des forces d'occupation israéliennes qui bombardent pour détruire, pour tuer ou amputer des enfants à Gaza. La lutte du peuple palestinien est légitime. Nous ne faisons que nous défendre. Nous souhaitons mettre un terme à l'occupation afin d'avoir un pays libre et indépendant. Parmi les 183 Palestiniens libérés ce samedi, 18 avaient été condamnés à la perpétuité, 54 à de longues peines. 111 sont des Gazaouis arrêtés après le 7 octobre mais sans lien avec l'attaque du Hamas. Les Palestiniens les considèrent comme des otages détenus uniquement pour servir à Israël de monnaie d'échange contre la libération des otages israéliens aux mains du Hamas. Sami Bourkhifa, Jérusalem. RFI.
Et réunis au Caire, les pays arabes de la région rejettent la proposition de Donald Trump de déplacer les habitants de la bande de Gaza en Égypte et en Jordanie. Mais le président égyptien a dit au téléphone à son homologue américain aujourd'hui que le monde compte sur lui pour la paix au Moyen-Orient. Donald Trump qui, parmi ses autres priorités à la lutte contre l'immigration dans son pays, il vient d'assurer que le Venezuela accepte de reprendre ses ressortissants expulsés des États-Unis, y compris, dit Donald Trump, des membres de gangs. La guerre civile au Soudan, plus de 50 morts dans un bombardement ce samedi contre un marché à Omdurman dans l'agglomération de Khartoum. On déplore également plusieurs blessés après cette attaque attribuée au FSR, des paramilitaires en guerre contre l'armée depuis avril 2023. Un conflit qui a tué des dizaines de milliers de personnes et en a déraciné plus de 12 millions. À propos du conflit dans l'est de la RDC opposant l'armée et ses alliés au M23 soutenu par le Rwanda, le chef de l'agence sanitaire de l'Union africaine estime que la situation à Goma, capitale du Nord Kivu, constitue une véritable urgence de santé publique, devenue l'épicentre propageant le Mpox. Pour Jean Kaseya, toujours selon ses termes, les conditions actuelles extrêmes, combinées à l'insécurité et au déplacement massif de population, ont alimenté la mutation du virus. Le président du Burundi, frontalier de la RDC et du Rwanda, redoute de son côté que ce conflit ne se généralise et embrase toute la région. Il s'exprimait hier devant le corps diplomatique accrédité au Burundi. Évariste Ndayishimiye appelle la communauté internationale à prendre ce risque au sérieux.
Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Si le Rwanda continue, si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix.
Dossier à suivre dans Afrique Soir, première édition à 18h30, temps universel. En attendant, la guerre en Ukraine approche de son troisième anniversaire. L'armée russe affirme aujourd'hui avoir pris un village tout près de Toresk, ville au cœur des combats dans la région de Donetsk. Par ailleurs, une nouvelle vague de bombardements a fait au moins 11 morts la nuit dernière dans 6 régions, selon Kiev. Moscou assure avoir visé via des missiles et drones des infrastructures énergétiques assurant le fonctionnement du système militaro-industriel ukrainien. Bientôt 3 ans d'un conflit qui, en conséquence, aurait dû conduire au départ des entreprises occidentales de Russie. Ça n'est pas le cas pour toutes, Nathanaël Vitran, en partie parce qu'il est difficile de vendre ses actifs.
Goldman Sachs peut pousser un soupir de soulagement. La banque américaine a reçu le feu vert ce vendredi de Vladimir Poutine pour la vente de tous ses actifs en Russie à un fonds d'investissement arménien. Les responsables de la banque avaient pourtant annoncé leur intention de quitter le pays dès le mois de mars 2022, quelques jours seulement après l'entrée des troupes russes sur le sol ukrainien. Mais Goldman Sachs, comme de nombreuses entreprises occidentales, s'est retrouvée prise entre le marteau et l'enclume, entre les sanctions prises par les alliés de Kiev à l'encontre de Moscou et les contre-sanctions décidées par le Kremlin pour punir les entreprises qui chercheraient à partir en leur imposant une taxe de sortie exorbitante. Toute transaction supérieure à 50 milliards de roubles, soit 480 millions d'euros environ, doit de toute façon être approuvée par Vladimir Poutine en personne. Pour les entreprises qui partent, cela revient à accepter de vendre à perte pour moitié environ de la valeur réelle de leurs actifs, à condition encore de trouver un acheteur. Plus tôt cette semaine, la banque suisse ING avait elle aussi annoncé son départ de Russie, estimant à 700 millions d'euros l'impact négatif de cette transaction sur ses résultats.
Et on fait connaissance à présent avec le Neoliner Origin. Il est considéré comme le plus long cargo à voile du monde, conçu par la société française Neoline, construit par le chantier naval turc RMK Marine. Il a été mis à l'eau hier à Tuzla, sur la mer de Marmara. Il pourra emporter jusqu'à 5300 tonnes de marchandises, Gorstros.
136 mètres de long, deux immenses mâts et 3000 mètres carrés de voilure, soit l'équivalent d'un demi-terrain de football. Telles sont les caractéristiques assez exceptionnelles de ce nouveau cargo à voile. Grâce au vent et en réduisant la vitesse de 15 à 11 nœuds, soit de 30 à 20 km heure, on divise par 5 la consommation de carburant et donc les émissions par rapport à un navire classique, souligne Jean Zanoutini, le président de Neoline. Au total, ajoute-t-il, c'est environ 80% d'économies d'émissions de gaz à effet de serre qui seront réalisées. La décarbonation de ce secteur est une nécessité. Aujourd'hui, 90% du commerce mondial est effectué par voie maritime, ce qui représente près de 3% des émissions de gaz à effet de serre selon l'Organisation maritime mondiale. Ce cargo à voile quittera la Turquie les cales pleines au cours de l'été 2025 pour rejoindre le port français de Saint-Nazaire, puis il débutera sa première rotation vers Saint-Pierre-et-Miquelon, Baltimore et Halifax sur les côtes nord-américaines. Neoline espère désormais la mise en chantier prochaine d'un second cargo bas carbone.
Et le vent nous pousse vers l'atelier politique.